voix nue. À voix nue, bonjour. À voix nue toute cette semaine avec Claude Régis. Première émission avec vous, Claude. Ni vous ni moi ne savons combien vous avez fait de mise en scène, mais vous êtes venu au théâtre assez tardivement. Dans quelles circonstances ?
Je devais avoir une trentaine d'années, je crois que c'était en 1952. J'ai commencé par une pièce de Lorca, qui vient d'être reprise par Langhoff d'ailleurs, qui s'appelait Doña Rosita ou Le langage des fleurs. C'était en 1952. J'ai mis un an à trouver le moyen de le représenter à Paris.
Personne n'en voulait.
À l'époque, personne n'en voulait. Il s'est trouvé qu'après la première, il y a eu une espèce de presse comme ça, favorable, qui fait que les théâtres qui m'avaient refusé m'ont demandé. Mais je préférais aller dans ce théâtre de Noctambule, qui est maintenant un cinéma rue Champollion, qui est tout près de la Sorbonne, de la rue des Écoles. Il y avait Delphine Seyrig et Piccoli qui jouaient à côté, qui devaient avoir un peu... être encore un peu plus jeune que moi, je suppose, à l'époque. C'est là aussi, dans ce théâtre, que Cazares et Gérard Philippe ont créé la pièce de Pichette qui s'appelait Les Épiphanies, qui était comme ça une espèce d'événement dans ces années 50, quoi. Et voilà, après, les choses se sont plus ou moins enchaînées.
Mais au départ, le désir de théâtre est venu comment ? Parce que certains vous taxent d'intello du théâtre, on y reviendra tout au long de cette semaine. Or, vous n'êtes pas un intellectuel et vous vous revendiquez plutôt comme un sensoriel. Comment a basculé votre désir et comment est venue cette espèce de vocation ? Je crois que pour vous, on peut employer ce terme-là. Cette entrée dans les ordres du théâtre.
C'est très difficile parce que c'est une question qu'on peut pas ne pas poser. On est curieux de savoir comment les choses se font. Mais même avec l'énorme recul que j'ai maintenant, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi j'étais d'un milieu très bourgeois, mais dans le genre provincial, puritain, calviniste... tout ce qu'il y a de plus austère et de moins cultivé d'ailleurs, parce que on se contentait d'une apparence très convenue. Alors, quelquefois, j'ai pensé que c'était par réaction contre ce rigorisme, et en même temps, je me fais piéger parce que ce même rigorisme se voit dans mes mises en scène et peut m'être reproché d'ailleurs, et l'absence de représentation, l'absence d'image peut aussi peut-être venir de là, je n'en sais rien. Peut-être qu'il y avait un désir violent de ruer dans les brancards. Je ne sais pas pourquoi, je suis un garçon très sage, en même temps, je sens quelquefois des violences comme ça me traverser. J'ai un besoin de violence et je sens qu'il y a quelque chose de sain même dans la colère et dans la violence et dans la révolte, et que sans doute j'ai essayé d'aller vers le théâtre pour ça, parce que c'était une révolution totale par rapport au mode de pensée, au mode de vie qui m'entourait. Et je dois dire, j'ai été aidé certainement par la littérature. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire très tard, puisque mes parents considéraient qu'en dehors des livres de classe, il n'y avait pas de livres. Donc j'ai commencé à lire, je crois, vers 17 ans, 18 ans. Et par bonheur, je suis tombé sur Dostoïevski assez vite. Et je sens, ça je peux l'analyser maintenant, que autant je sentais la vie familiale, la vie sociale autour de moi complètement falsifiée, complètement erronée, en entrant en littérature, j'ai ressenti une vérité, je me suis reconnu et je me suis mis à vivre avec le livre. Alors j'aurais pu être prostitué comme Sonia ou assassiner une vieille femme comme Raskolnikov. Et d'ailleurs, ça aurait été magnifique parce que en littérature, c'est magnifique et en même temps, c'est plus vrai que la vérité. Donc c'est cette réalité-là, je crois, qui a fait complètement basculer les choses. Et ça, j'ai été aidé parce que j'étais en maison d'étudiant près du Châtelet, donc c'était la mode de Sartre, c'était les années 50, donc ça explosait de partout, donc on a lu tout ça. J'ai même joué assez rapidement dans Huis clos, d'ailleurs le garçon d'étage, mais enfin mes camarades de la maison d'étudiants m'ont envoyé, expédié, vraiment, c'était inéluctable, aller voir les mouches chez Dulin, qui avait déménagé dans ce théâtre qui s'appelle maintenant le Théâtre de la Ville, qui du temps de Dulin s'appelait Théâtre de la Cité, car les Allemands avaient débaptisé Sarah Bernhardt. C'était le théâtre Sarah Bernhardt. Donc le café s'appelle encore Sarah Bernhardt, lui il a le droit, mais le théâtre avait été débaptisé et n'a jamais été rebaptisé d'ailleurs. Donc, je suis monté dans les greniers, voir les cours de ce petit homme bossu qui aurait pu ramoner les cheminées. C'était un jeune Savoyard, et qui était une sorte de génie qui sortait de ce corps un peu difforme, avec cette voix fluette et chantante qui n'avait aucun repère d'équivalence dans les sons qu'on pouvait entendre, et qui avait une sorte de génie de la poésie. Et j'ai vu les mouches m'ont, je dois dire, ennuyé par la suite. J'ai confirmé cette opinion et je pense que toute l'histoire du théâtre engagé de Sartre est pas très intéressant, que c'est d'avoir l'imitation d'un théâtre plus profondément politique, et qu'en plus ça a toujours l'inconvénient d'un théâtre qui veut signifier quelque chose et qui donc est détruit par sa propre volonté d'être clair, d'être précis, quoi. Mais donc, dans ce même théâtre, Dulin jouait aussi Volpone, et il jouait La vie est un songe de Calderon, voilà. Et là, j'ai été complètement frappé, ça je suis sûr, c'est des choses qui m'ont complètement déterminé pour tout mon travail, parce que Dulin n'avait pas beaucoup d'argent, et donc il y avait une espèce de praticable qui traversait toute la scène, avec un trou au milieu, c'était la caverne. Et puis les gens arrivaient à pied et on disait qu'ils étaient à cheval et ils se baladaient sur cette montagne qui était impraticable en bois et on voyait tout, on croyait tout, on imaginait tout. Et comme dans Dostoïevski, j'ai vu la prédominance de l'imaginaire et la force passionnante de cette réalité-là, à quel point on la ressent comme vrai, alors que la vie qu'on vit vraiment et l'entourage qui vit autour de nous résonne avec une fausseté à faire déchirer les oreilles, en fait.
Donc, Claude Régis, vous avez commencé en faisant l'acteur.
Ben, je savais rien du théâtre, je savais pas du tout que la mise en scène pouvait exister, parce que c'était. Mais l'attirance que j'avais vers le théâtre, c'était l'acteur. Donc, d'ailleurs, en France, il y a très peu maintenant d'écoles de mise en scène, et à cette époque, il n'y en avait absolument pas du tout. Il n'était pas question de ça. Donc, on ne pouvait aller que dans des cours d'acteurs. Mais en fait, je voulais être acteur. Si on veut rester dans l'anecdote de la jeunesse, il y a quand même aussi des rencontres qui ont été très fortes, et il se trouve qu'elles sont russes toutes les deux, et je pense que Stanislavski est arrivé aussi à travers eux, c'est Witold et Blachova. Witold qui jouait Garcin d'ailleurs au Vieux Colombier pendant que les mouches se jouaient au théâtre de la ville, et que je suis allé voir évidemment très 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 vite, et par des hasards comme ça Witold est venu dans la maison d'étudiants où j'étais faire des cours le dimanche matin. Et donc j'ai commencé à travailler avec lui. Et très vite, il m'a pris comme assistant et il m'a demandé de faire des mises en scène à l'intérieur du cours. Et entre-temps, il s'était associé à cet autre être russe dont je parlais, qui était Tania Balachova, qui est une femme tout à fait exceptionnelle. Je crois que tous les gens qui sont passés par là, moi je me rappelle de Zouk, je me rappelle de Vitesse, Tatiana Moukine, tous les gens qui sont passés par là ne peuvent pas l'oublier, Balachova. C'était un être exceptionnel, d'une générosité incroyable, d'une intelligence et d'une sensibilité qui ne faisait qu'un, et elle ne manipulait jamais les êtres, et c'était un échange vivant extraordinaire. Alors d'ailleurs, ma vie est très étrange, parce que presque encore au cours, j'ai proposé à Balachova de jouer dans ma deuxième mise en scène, qui était une pièce de Pirandello, qui s'appelait La vie que je t'ai donnée. Elle m'a demandé de jouer. C'est très drôle quand on regarde le passé comme ça. Il y a une actrice de cinéma qui s'appelait Renée Saint-Cyr qui adorait Balachova. C'est une association très étrange. Donc elle ne travaillait jamais sans se faire diriger par Balachova. Et donc elle jouait une pièce d'Achard dans les casinos, je crois, dans les villes d'eau. Et Tania m'avait distribué dans cette pièce d'achat. Donc j'ai aussi joué sous sa direction, je l'ai dirigé. Donc ce sont des échanges à tout niveau. Et je pense que c'est là, dans cette Russie-là de Vitole, de Balachova, dans l'univers de Dostoïevski, qui est quand même de la même région. Après, quand j'ai rencontré Saroth, j'ai senti à quel point elle était profondément russe et que tout ce qui était sous-jacent dans son œuvre rejoignait cet univers impalpable qui est pour moi si dense, si vivant, si précis, quoi.
Vous avez été jeté littéralement dans le monde du théâtre à l'aube des années 50, dans un Paris qui était divisé en deux. D'un côté, le théâtre d'engagement, le théâtre politique, et puis de l'autre, le théâtre, disons, métaphysique.
De l'absurde, on appelait ça. Voilà, c'est Beckett et Ionesco.
Et vous, votre camp, il a été pris immédiatement en contre-Brecht et plutôt pour Ionesco.
Même pas pour Ionesco, c'est curieux là aussi, c'est un instinct, très vite j'ai pas eu envie de faire ce que je voyais faire aux autres, donc j'ai pas envie de faire Beckett, que d'ailleurs Blin faisait remarquablement, comme Blin faisait remarquablement Genet. Je n'ai pas eu envie de toucher non plus à Ionesco, qui était monté à la Huchette, donc ça se passait très bien pour eux, et j'ai eu envie de trouver d'autres auteurs qui ne seraient pas directement du théâtre politique, qui ne seraient pas non plus trop influencés par ce théâtre de l'absurde, et par une chance hasardeuse, comme tout ce qui m'est arrivé dans la vie, je suis tombé sur des manuscrits de Pinter, c'est-à-dire l'amant, la collection. Alors là aussi c'est une histoire, parce que à partir de là, comme j'ai monté l'amant, la collection, qui ont été un des premiers succès comme ça qui m'ont permis de travailler par la suite, on dit que c'est moi qui ai importé Pinter à Paris. C'est complètement faux. Ce qui s'est passé, comme souvent avec la France, c'est que les Français n'ont rien compris à Pinter quand il fait représenter Le Gardien, qui a été repris d'ailleurs 20 ans après qu'on ait monté l'amant et la collection par Dufilo, avec un très très grand succès. Mais à l'époque de la création, d'ailleurs on fait là aussi une erreur, c'est pas Blin qui faisait la mise en scène, je crois que Blin jouait, et c'est Jean Martin qui faisait la mise en scène, c'était au théâtre de Lutèce, qui a disparu depuis, et ça a été complètement détruit par la critique. Et Pinter en a conclu que les Français ne comprenaient pas son humour et que c'était pas la peine d'insister sur ce territoire. Donc il y a eu 10 ans de blackout. Et c'est après ces 10 ans que j'ai ressorti ces pièces courtes de Pinter. Et par une très grande chance, j'avais croisé Delphine Seyrig et je lui ai demandé de jouer. Elle a accepté. C'était le début d'ailleurs de toute une collaboration. Et c'est vrai que cette époque du théâtre est pas reconnaissable aujourd'hui. On ne comprend pas comment, parce que on a fait ça au théâtre Héberto, qui était un homme très complexe, mais quand même d'une très grande intelligence et qui a fait beaucoup pour le théâtre. C'est certainement un homme d'affaires pas très clair. Je crois qu'il a trafiqué avec le casino de Forges-les-Eaux. Il possédait la moitié des immeubles du quartier autour du théâtre Héberto. Il avait fait des restaurants autour du théâtre pour capter une partie des cachets qu'il versait aux artistes. Donc c'est un homme très complexe, mais qui prenait des risques. Il n'aimait pas du tout Pinter. Il comprenait rien. Il appelait ça le cirque Pinter. Et il m'a dit, oh, je vais te le faire, ton Pinter. Et à partir de là, comme le théâtre était plein, le théâtre Antoine, Madame Berriot, qui elle vivait des bienfaits du Glaoui, à qui elle faisait certainement d'autres bienfaits, a financé cette avant-garde très remarquée à cette époque, où on a monté en effet beaucoup de théâtre anglais. La prochaine fois, je vous chanterai Rosencrantz et Guildenstern sont morts, l'anniversaire de nouveau de Pinter, qui a d'ailleurs été un échec. Et voilà, mais cette vie était incroyable parce que on n'avait pas de compagnie, on n'avait aucune forme juridique, on savait pas qu'on était une compagnie. On était ensemble, on avait fait un spectacle spectacle où il y avait 4 acteurs et moi, ça faisait 5 personnes. Et on est arrivé dans cette maison, on nous a dit, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes directeur artistique, la troupe est directeur artistique, pas moi. Vous montez ce que vous voulez et on ne faisait pas de budget prévisionnel. Alors, je pense maintenant, on nous demande au centime près de prévenir les gens de combien ça peut leur coûter. Et on engageait les gens qu'on voulait, on faisait les décors qu'on voulait, la maison administrait les choses. Et je ne savais jamais si c'était bénéficiaire, déficitaire. On ne parlait pas d'argent, jamais, à aucun moment. On ne s'occupait que de faire le travail du théâtre. Et on était comme ça les maîtres de décision dans ce théâtre qui voguait comme ça dans un éther abstrait, sans apparemment aucun souci d'administration, de financement. C'est une chose de nos jours, quand malgré le subventionnement qui a été fait en principe pour répandre et faciliter la culture et spécialement la faire hors de Paris, ce qui d'ailleurs ne s'est pas fait parce que tout continue et a toujours continué, même du temps du Grenier de Toulouse, même du temps de Planchon à Lyon, c'est toujours passé par Paris et ces gens venaient chercher des stars à Paris et venaient chercher le succès à Paris et tant qu'ils n'avaient pas été gratifiés par une presse parisienne et il n'existait pas dans leur région non plus. Donc, ça n'a pas développé la création dans les régions, je crois pas. C'est pour dire que toutes les réformes, tout ce qui apparaît, est complètement falsifié, comme la réalité dont je parlais. La vraie vérité, c'est ce que les gens essayent de trouver en faisant ce métier. Je ne sais pas en ce qui me concerne ce que c'est. Je sens que je cherche comme une bête obscurément quelque chose. J'ai plus l'impression d'être dans un souterrain et de gratter de la terre pour avancer. Et quelquefois, je crois que je fais des découvertes, mais je ne peux pas expliquer lesquelles. Donc, c'est très difficile de continuer et c'est très difficile d'intéresser des gens. Mais je pense que tous les gens qui font vraiment ce métier, c'est-à-dire qui cherchent autre chose que la réussite, la leur personnelle ou la réussite d'un spectacle ou d'une série de spectacles plus brillants les uns que les autres, à la suite les uns les autres. Je crois que tous les gens qui cherchent vraiment sont dans cette difficulté et dans cet aveuglement. D'ailleurs, je sens bien que je ne voudrais pas en sortir, en fait. Si j'en sortais, je me sentirais très en danger, je pense.
Avez-vous l'impression, Claude Régis, qu'au fur et à mesure de cet avancement, cheminement, plus exactement, dans le monde du théâtre, vous avez gardé la même ferveur dans cette approche et de cette volonté de découverte entre ce qui est réel et ce qui est pas réel, ce qui est inconscient et ce qui est enfoui, et ce que vous appelez obscur?
Oui, je crois que ça s'est même accentué justement grâce au fait que j'ai été mis en possession d'une espèce de liberté de monter les textes que je choisissais avec les acteurs et les créateurs pour les scénographies, pour la lumière, pour le son. J'ai toujours travaillé avec des gens que j'ai choisis librement, sur des textes que j'ai choisis librement, mettons de côté les opéras, qui est une industrie à part, que je fréquente très peu. mais ce relatif pouvoir qui m'a été donné, peut-être cette chance extraordinaire d'avoir rencontré les auteurs que j'ai rencontrés, d'avoir rencontré les acteurs que j'ai rencontrés, aussi les scénographes ou les éclairagistes, qui maintenant me donne la possibilité, peut-être d'ailleurs encore provisoire, de continuer à chercher et d'oser encore se mettre en difficulté sur des terrains qu'on connaît mal. Et ça veut dire aussi que les gens qui travaillent avec moi acceptent de prendre ces risques-là, de ne pas travailler sur un terrain connu du théâtre, mais d'expérimenter, de chercher, de regarder ensemble, de risquer beaucoup l'échec. Et c'est d'ailleurs normal qu'il arrive de temps en temps. Mais je pense que justement, j'ai pu, par toutes ces chances accumulées, j'ai pu aggraver ce goût de la recherche. Et évidemment, peut-être atteindre à travers, je crois que tout ce que j'ai pu mettre sur ce terrain d'expérience, ça vient des œuvres, ça vient de la littérature, ça vient de ces écrits que j'ai montés, et qui aussi, par le fait que je n'ai monté, à deux exceptions près, je crois, pendant 55 ans, que des auteurs contemporains. Et ça, à partir d'une époque où ça se faisait quand même très peu, je crois que maintenant il y a un progrès, ça se fait davantage, mais il n'y a pas non plus à se voiler la face sur l'équivoque du contemporain. Tout ce qui est contemporain n'est pas forcément intéressant. Mais il me semble que ce que... Oui, en finissant par les psaumes de David, qui sont une expérimentation poussée vraiment très très loin et qui n'a pas fait l'unanimité du public, qui a par contre a provoqué des bouleversements extrêmement profonds, ou les variations sur la mort, que beaucoup de gens ont très mal interprété ou pas compris du tout. Et c'était le cas de presque tous les spectacles, finalement, et c'est normal. Mais la seule chose que je crains, c'est que depuis quelques années, l'état d'esprit général a changé. La paresse intellectuelle est déjà très répandue depuis toujours. Mais on a l'impression maintenant qu'il y a presque un interdit à déranger les gens, à ennuyer les gens en leur demandant de faire un effort. Et qu'il y a, dans tout ce qui est production, il y a une espèce d'état d'esprit de frilosité, de peur d'on ne sait pas quoi, finalement. Et puis de suivre cette pente qui dit toujours pourquoi faire des choses difficiles, pourquoi mécontenter le public, pourquoi prendre des risques, pourquoi compromettre des sommes importantes. Finalement, c'est tellement bien de rester dans une moyenne qui satisfait la majorité des gens et qui ne fait pas de vagues. Et alors, on voit que cet esprit se répand. On voit d'ailleurs un confusionnisme dans les idées de droite, d'extrême droite, se répandent comme des gangrènes, parce que pour éviter l'extrême droite, on prend des partis qui sont encore plus violents que les partis de l'extrême droite. Et on sent petit à petit que ce grand système du subventionnement de la culture, qui a été bien sûr bénéfique, mais qui, comme toute chose qui avance, recule aussi. Et que ça a créé aussi, à l'intérieur de la profession, une espèce d'endormissement. On parlait du lin, moi je me rappelle qu'à l'atelier, il n'y avait pas de subvention. Dulin a pris tous ses risques, à ses risques, ses périls. Mais je sais que quelquefois, quand ça marchait pas, il avait justement cette solution de reprendre Volpone, qui marchait tout le temps bien. Donc, chaque fois qu'il y avait un four, il reprenait Volpone. Mais simplement, il était subventionné par les bistrots qui étaient autour de l'atelier. Et toute la troupe faisait des ardoises. Et les bistrots jouaient le jeu, c'est-à-dire quand on reprenait Volpone, on payait les ardoises, et quand on prenait des échecs, on agrandissait les ardoises. Donc c'est un système aussi, je crois, où on vivait autrement, l'amitié était autre, on se prêtait de l'argent beaucoup plus facilement. L'argent avait d'ailleurs pas une importance aussi primordiale. On a peur aussi que les jeunes générations, voyant tous les objets qu'on leur met sous les yeux, et dans les vitrines, dans la rue, et naturellement dans les publicités et à la télévision, il n'est plus qu'une idée, c'est de s'apercevoir que pour avoir une vie qu'on pourrait simplement dire décente, il faudrait être dans un luxe inouï. Et que par conséquent, le premier objectif, c'est de choisir une profession qui assure la fortune, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui dévie complètement les choses essentielles de l'humanité. Alors il restera toujours des cinglés, Dieu merci, il y a toujours des fous, des poètes, des gens qui créent, des gens qui écrivent, des gens qui font des choses avec leurs mains, avec un tas de matériaux. Et ça, je crois que ça existera toujours. Mais on sent qu'il y a une espèce de désintérêt et que petit à petit, on nous fait sentir aussi que c'est pas tellement utile tout ça. Quand même, ça coûte très cher et à quoi ça sert finalement? Et que on voit bien qu'on est jugé dans la culture, dans les ministères, et forcément ça réagit sur les directeurs. On compte le nombre de représentations qu'on donne, on donne le nombre de spectateurs qui voient ces représentations, on compte combien de recettes on fait. Donc c'est tout numérique. Et ce ne sont absolument pas des critères qui peuvent aider quoi que ce soit dans la création artistique, je crois pas.
À voix nue, Diffy Mariani, Laure Adler, on se retrouvera demain avec Claude Régis.
En juillet 2006, Laure Adler s'entretenait avec le metteur en scène Claude Régis. Retrouvez et podcastez la série d'entretiens sur franceculture.fr.